Bonjour à tous, vous êtes actuellement sur Radio Cité 13, nous sommes à Marseille. Avoir un générique jeune à l'image de nos invités qui sont jeunes et dynamiques, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Josépha Collin et Monsieur Ahmed Jaoui, tous deux candidats aux élections départementales des Bouches-du-Rhône du 20 et 27 juin. Bonjour.
Bonjour Jean-Siane, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Cité 13 Marseille.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, bonjour à vous deux et bienvenue sur Radio Cité 13 dans l'émission Focus. Alors, avant d'aller plus loin dans les présentations, Josépha, vous avez choisi une chanson, c'était Cosmo de Soprano.
Tout à fait.
On écoute.
Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête?
Cosmo, toujours sur radiocité13.com, un artiste qu'on adore à Marseille, Soprano. Alors Josépha, merci beaucoup pour ce choix. Et pourquoi cette chanson en particulier?
Alors pour deux raisons. La première, c'est que je suis complètement fan de Soprano parce que c'est un artiste de talent qui met toujours en avant une moralité dans ses histoires et des valeurs dans ses chansons. Donc ça, c'est très important pour la génération qui est fan de Soprano, pour transmettre un message positif pour les jeunes. Et la deuxième des choses, c'est parce que ce qu'il dit dans cette chanson, pour moi, doit représenter Marseille. Unis, on va plus haut. Unis, on est trop beau. Je veux dire, il arrive à un moment donné où Marseille devrait être à l'image de Cosmo.
Oui, c'est une bonne entrée en matière.
Bravo.
Alors, nos deux invités sont issus de la société civile. Ils ont tous les deux une riche expérience de la politique, mais une expérience néanmoins différente. Josépha Collin, vous avez été élue à la mairie de Marseille des 4e et 5e arrondissements.
Tout à fait.
Vous avez mené un grand nombre d'actions en tant qu'adjointe au maire, déléguée à l'action familiale et aux droits des femmes pendant 6 ans.
Tout à fait.
Je vous laisse la parole.
Mais bien sûr, ma chère Gentiane, je vous en remercie. Donc, en effet, il se trouve que sur le 4e arrondissement de Marseille, hein, enfin plus précisément à la limite des 13e et 4e arrondissements, je suis présidente d'honneur d'une école de danse que j'ai ouverte donc avec Marion Pelletti, que je salue si elle nous écoute, et j'en suis certaine. Du coup, on a été amenés, dans nos différentes représentations, à rencontrer le maire de secteur de l'époque, qui était Monsieur Bruno Gilles. On a sympathisé, on a discuté des visions de l'avenir, de ce qu'on voulait transmettre, de nos différents engagements en termes de citoyenneté, d'insertion, d'aide au niveau des familles. Et là-dessus, en décembre 2013, il me propose d'être sur sa liste. Et là, moi, complètement issue du milieu de société civile et surtout associatif, je le regarde ébahi et je lui dis « Mais monsieur le maire, la liste de quoi ?» Donc là, vous vous doutez bien qu'il explose de rire. Et il m'explique en fait quelles sont les missions des personnes qui vont se trouver sur la liste, tant au niveau de la campagne que derrière, une fois qu'ils seront élus, donc avec des délégations, etc. Et je lui dis, écoutez, monsieur le maire, je vais être très clair avec vous. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous cherchez des jeunes, en effet, à renouveler votre liste pour être là, pour sourire, et rien à faire d'autre, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Soit, en effet, vous serez un homme engagé, vous me laisserez la possibilité d'être une jeune élue engagée, vous me laisserez carte blanche pour mes idées, pour mes actions, etc. Il s'y est engagé, il a respecté ses engagements, et je l'en remercie. Et de ce fait, pendant 6 ans, j'ai pu accompagner de nombreuses familles, que ce soit au travers des démarches dont elles avaient besoin pour différents dossiers, au travers des événements, les brunchs des familles que l'on faisait très régulièrement au Palais Longchamp, mais surtout, dans le côté de la délégation qui me tenait le plus à cœur, c'était le droit des femmes, avec la création des événements Femmes de Mars, où en effet, je sais qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard,
oui,
mais on a pu lever énormément de fonds pour aider toutes ces femmes qui sont dans le besoin à Marseille.
Très bien, merci. Cette présentation riche, tout comme votre carrière et votre personnalité.
Merci.
Je pense que les auditeurs.
Oui, parce que j'ai une vraie vie quand même, à part la politique.
Vous êtes une femme pleine de vie et voilà, on apprécie beaucoup. Ahmed Jaoui, quant à vous, alors c'est notre domaine. Vous êtes brigadier chef principal à la police municipale de Marseille. Finalement, comment dois-je vous appeler ?
Ahmed ?
Ahmed,
ouais,
chef,
non, pas chef,
brigadier, monsieur
non,
le brigadier.
Pas du tout, non. Ahmed, c'est bien. Amédée, il y en a qui m'appellent Amédée aussi.
D'accord, ouais. D'accord. Très bien. Vous êtes par ailleurs, parce que vous aussi, vous avez une personnalité riche et beaucoup d'actions dans différents domaines.
Merci.
Également bénévole depuis 20 ans au sein de l'association Info à Gogo, mm-hmm. située à la Morlette, qui a obtenu en 2011 le prix Prévention de la délinquance, décerné par le Forum français pour la sécurité urbaine. De quoi s'agit-il en fait ?
Juste une petite précision, c'est une erreur, c'est 2017.
Ok, ouais. Ok.
2017. En fait, c'est un organisme qui décerne un prix en général. Ceux qui présentent, ceux qui postulent pour ce prix-là, ce sont des structures, des institutionnels ou des communes. La ville de Marseille a postulé la même année que nous et nous avons gagné ce prix. Nous sommes la seule association aujourd'hui composée de bénévoles et uniquement de bénévoles à pouvoir avoir eu ce prix en France.
Bravo.
Voilà, ça vient récompenser l'ensemble de notre action pendant plus... parce que moi, je suis arrivé en 99, mais l'association existe depuis 1985.
D'accord. Et c'était en fait des actions de médiation, tout un programme qui...
Un programme, effectivement, vous avez raison. Il y a tout un programme qui avait été mis en place avec l'association Info à Gogo, composé de beaucoup de policiers qui vivent à la Morlette, qui ont vécu à la Morlette. D'autres qui vivent comme moi, encore à la Morlette, parce que je n'ai pas quitté le quartier, j'habite toujours là-bas. On avait mis en place des actions au quotidien qui nous permettaient aujourd'hui de travailler avec les jeunes sur du moyen terme, et ce qui leur permettait de sortir à la fin du programme avec des diplômes, des formations, des permis, et d'intégrer le monde du travail plus sereinement. Ils avaient aussi une connaissance civique des institutions qui, dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, la ville, le département, la région. L'État, savoir comment on vit avec ces institutions-là. C'était important pour nous de le savoir. On a travaillé beaucoup avec les élus. À l'époque, quand les élus venaient dans notre association et nous visitaient, j'en parle, je suis placé un big up à un élu qui n'est pas de mon bord politique, mais qui m'a peut-être donné envie de faire de la politique, ou en tout cas, je m'inspire un petit peu de lui, puisque je prétends prendre l'un des postes qu'il a occupé, c'est Joël Dutot, un communiste,
d'accord.
qui lui faisait le tour des associations et on le voyait régulièrement. Il y a 12 ans, il a été éliminé parce qu'il s'était présenté, il avait perdu. Et lui faisait un travail remarquable, il était là au moins.
C'était un homme de terrain.
Ouais, clairement.
D'accord. Mais c'est Bon, à savoir qu'il y a un certain nombre de policiers, vous disiez que dans votre association, vous n'étiez pas le seul à avoir des engagements en dehors de leur emploi, qui est quand même assez prenant, j'imagine.
Oui, un petit peu, mais bon, ça, nous, ça nous permettait de, je ne sais pas parce qu'on était, engagé social. On est devenu policier, mais finalement, on reste des citoyens à part entière. Et c'était tout à fait naturel que de montrer que ce n'est pas parce qu'on mettait un uniforme qu'on était différent. Au contraire, on était dans la continuité. On est citoyen malgré tout, malgré qu'on mette un uniforme, on reste citoyen.
Ok, très bien. Alors, réunis par la politique, tous les deux, vous êtes donc un binôme, prochainement élu, on l'espère, pour vous et pour peut-être les habitants aussi.
On l'espère aussi, on l'espère surtout
pour les habitants. Oui.
au conseil départemental. Donc, vous partagez des convictions, mais vous êtes également artistes dans l'âme, tous les deux, chacun à votre manière.
C'est vrai.
Alors, Ahmed Jaoui, vous faites partie de la troupe de théâtre du Petit Merlan.
Exact.
Et vous êtes auteur-compositeur de clips vidéo. Dans quel style, en fait, de musique?
Alors, j'écris des clips surtout avec un seul artiste. Les gens reconnaîtront, je ne dirai pas son nom, mais il est très connu. Les clips que j'ai...
Un artiste marseillais.
Qui est dans le rap.
D'accord.
Dans le rap marseillais.
Allez, on va jouer aux devinettes.
Voilà, peut-être qu'ils vont le trouver. On a créé des personnages et je suis intervenu dans les clips en tant que... Parce que je suis aussi un comédien, donc je suis intervenu dans certains clips. C'est vrai qu'on a des clips qui ont presque 600 millions de vues. Il y a un clip qui a presque 600 millions de vues.
On va chercher tout simplement un clip d'un rappeur marseillais qui a 600 millions de vues.
Un rappeur français qui a 600 millions de vues, il n'y en a pas beaucoup.
Déjà,
croyez-moi.
D'accord.
Il y en a un second qui n'est pas loin des 300 millions. Il a 2 ans à peu près, celui-là. Il est sorti l'été dernier. Donc voilà, je vous aiguille. Ça parlait de la profession des taxis.
Ok.
Voilà.
Ok, très bien. Alors, on va chercher. On lance à nos auditeurs sur Facebook Live de nous envoyer dans les commentaires les suggestions ou les liens des clips auxquels ils pensent.
Et on verra d'ici la fin de l'émission s'ils ont trouvé.
Voilà, voilà.
Super. Alors, si vous avez celui qui trouve, on viendra boire un coup chez vous.
Pourquoi pas? Alors, Josépha Collin, avec votre fibre artistique, vous êtes présidente d'honneur, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une école de danse, Marion Pelletier Dance School, de danse urbaine, depuis 10 ans.
Oui, ça passe.
Et vous avez créé donc un festival incroyable, je peux en témoigner, j'ai assisté à de nombreuses reprises, un festival au féminin, Femmes de Mars. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, en effet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre de ma délégation aux droits des femmes, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir développer les événements Femmes de Mars. Alors déjà, pourquoi ce nom? Tout le monde me dit Mars, Marseille, Mars, le mois de Mars, mais pas du tout.
Ah!
Ben non.
Donc?
Mars.
Le chocolat.
Non plus. Ah, ça aurait pu l'être. En plus, ça fait partie de mes chocolats préférés, mais pas du tout.
Non. Et on repart.
Voilà. Bonne transition. Non, en réalité, Mars, parce que c'est la planète de la guerre. Et que pour moi, toutes les femmes sont des guerrières.
Ah, et ça a été dit dans la chanson de Soprano tout à
l'heure
aussi.
Tout à fait. Exactement. Donc, tout est lié. Donc, voilà pourquoi je l'ai appelée Femme de Mars. Je l'ai appelée Femme de Mars aussi, et je ferai un petit clin d'œil, parce que quand j'étais plus jeune, la première troupe de danse que j'ai créée s'appelait les Princesses de Mars. Donc, c'était une continuité pour moi. Adolescente et jeune femme, entre guillemets, j'étais une princesse de Mars et là j'ai créé Femme de Mars. Donc, du coup, voilà, c'était la digne suite que l'on pouvait faire en grandissant. L'engagement reste le même, hein, puisque déjà à l'époque, dans cette troupe, on faisait de l'insertion de jeunes filles à travers la danse et le monde du spectacle, en plus des spectacles où on se produisait sur des manifestations sportives. Et là, dans cette école, en effet, en plus des cours, c'est tout un accompagnement des familles que l'on propose également au niveau de l'école de danse. Et du coup, pour Femmes de Mars, ce sont des événements où on va faire des levées de fonds caritatives, comme on évoquait tout à l'heure, que ce soit pour des associations type SOS Femmes, que vous devez connaître bien évidemment, hein, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour les associations type Espoir au Sommet, pour la lutte contre le cancer en partenariat avec l'IPC, ou encore Féminité sans abri, où là on a fait des collectes de dons pour redistribuer donc, au niveau des maraudes, parce qu'il est très très difficile de vivre dans la rue. Mais alors imaginez-vous en tant que femme, c'est véritablement une catastrophe. Donc il était important pour Femmes de Mars d'être à leur côté, de les accompagner et de les aider au mieux. Donc là c'est vrai que n'étant plus adjointe au maire, les événements auraient pu s'arrêter.
D'autant plus qu'on a eu un sacré confinement, etc.
Exactement, mais pas du tout. J'ai déposé le nom. Alors, je fais un clin d'œil à la mairie du 4-5 qui a voulu créer Femmes sur Mars. Ne vous inquiétez pas, les habitants des 4-5 ne sont pas dupes et n'ont pas apprécié du tout, donc ils ne vous ont pas suivi. Donc Femme de Mars a été déposée et c'est aujourd'hui une très belle association qui a démarré avec pas mal d'adhérents. Donc on a pu faire cette année, malgré les conditions sanitaires, une édition en ligne. Et je sais que vous nous avez suivis, Gentiane, oui. Et je vous en remercie. Et donc vivement l'année prochaine que l'on puisse se retrouver sur différents endroits de Marseille et surtout sur le secteur nord, parce qu'il y a énormément de besoins d'accompagnement de ces femmes, et surtout ouvrir à toutes ces belles associations puisqu'il y en a énormément, on en rencontre régulièrement qui s'occupent des femmes et des familles et vraiment je les félicite et je les remercie pour leur engagement.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Pas du tout, c'est très bien dit.
Hein, je pensais.
C'est parfait,
vous
non.
Acquiesciez. Ouais. Acquiesciez. Alors, vous avez choisi la chanson Josépha, Mesdames, de Grand Corps Malade.
Eh ben oui, c'est un peu notre hymne aussi chez Femmes de Mars. Et quand vous aurez écouté les paroles, si vous ne la connaissez pas déjà, je pense que vous comprendrez pourquoi. La première fois que je l'ai écoutée, j'ai pleuré quand même.
Alors, on va essayer de se retenir de pleurer, mais on va quand même l'écouter.
La larme facile.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Magnifique chanson, en effet. On pourrait s'arrêter là. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter.
Je l'aime.
Alors, on pourrait rajouter quand même qu'il y a des hommes qui votent aussi, donc c'est important de penser à eux.
À eux, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va parler de votre choix musical. Si on n'a rien à ajouter sur cette magnifique chanson et cette hymne, voilà.
Elle est magnifique.
Tout est dit. Ahmed Jaoui, vous avez choisi d'écouter une autre musique, un peu plus ancienne, Mistral Gagnant.
Effectivement.
De Renaud.
Exact, de Renaud.
On écoute et on commente après.
Allez, très bien.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler. parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Nous sommes toujours sur RadioCité13.com en présence de Josepha Collin et Ahmed Jaoui, deux candidats très sympathiques et dynamiques aux élections départementales. Alors, on vient d'écouter Renaud,
oui.
Les Mistral gagnants. Pourquoi ?
Renaud qui est un Provençal. Renaud, parce que si on regarde par rapport à cette chanson, l'origine du titre, c'est une boutique qui s'appelait Mistral gagnant, c'est ça ?
Des bonbons aussi, je crois.
C'est une boutique de bonbons, effectivement. Et du coup, ça ramenait à l'enfance. Et moi, c'est vrai que tout ce qui ramène à l'enfance, c'est un petit peu, j'ai pas encore coupé le cordon.
Vous êtes nostalgique.
Je suis un petit peu nostalgique et puis je suis dans le prolongement. Je suis un Peter Pan peut-être, je ne sais pas.
Voilà. Et puis, quand tu... bien Peter Pan.
Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Merci. Voilà, donc Mistral gagnant. Je trouvais que Mistral, ça ressemblait, ça c'est assez représentatif de notre région. Et gagnant, c'est ce qui va peut-être nous caractériser le 27 juin.
Certainement.
Ouais. On vous le souhaite en tout cas. Alors, du coup, pour revenir à la nostalgie et à vos débuts, je me demandais comment finalement vous étiez et pourquoi vous étiez rentré en politique, parce qu'on pourrait se contenter de son action citoyenne dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie associative, des événements, de la culture, etc.
Très juste.
Pourquoi aller encore plus loin ? Vous avez un planning tous deux chargé ? Josepha ?
Alors, moi tout simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est venu me chercher du milieu associatif pour me dire « on a besoin de personnalités comme toi pour t'investir sur le terrain ». Et c'est vrai qu'une fois que je suis tombée dedans, j'ai compris que ça me correspondait complètement et pleinement par rapport à ma personnalité, parce que j'ai cette flamme qui m'anime où j'ai besoin d'aider les autres, d'accompagner les autres et aider mon prochain, c'est ce qui m'enrichit au quotidien personnellement, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Parce que vous savez, peu de personnes le savent, mais j'ai grandi donc dans une famille de parents divorcés, entre le secteur nord de Marseille et le centre-ville. Donc j'ai pu, tout en grandissant, constater la différence des moyens mis à disposition pour les jeunes et les familles entre le secteur nord et le reste de Marseille. Et j'ai vécu ça comme une injustice. Et cette injustice m'a accompagnée toute ma jeunesse en grandissant. Et c'est pour ça qu'une fois que je me suis investie en politique, j'ai voulu défendre mon territoire. Donc j'ai voulu être candidate aujourd'hui chez moi, et non plus là où il y avait mon école de danse, pour véritablement rééquilibrer les chances, élargir le champ des possibles, et donner la chance, encore une fois, à ces jeunes, à ces jeunes générations, à ces familles, d'avoir les mêmes possibilités. C'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'anime. Et c'est vrai que souvent on me dit « Oui mais Jo, entre ton travail, tes assos, ta vie personnelle, etc. Pourquoi la politique ?» Parce que j'ai une ambition très personnelle. Quand on croise les gens dans la rue, souvent ils nous disent sur le secteur nord de Marseille, j'ose te plaît avec tes connaissances, aide-moi à déménager, aide-moi à partir, j'en ai marre, c'est très dur chez nous, etc. Et donc moi mon rêve, je vous le confie aujourd'hui hein, à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent, ce serait d'être élue, de bien travailler pendant 6 ans avec mon binôme et avec toute l'équipe qui nous entoure, et au fur et à mesure du temps sur le terrain d'entendre Jo, merci. On est heureux chez nous, on est bien chez nous, on ne veut pas déménager. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants de tout le secteur nord de la ville, ils sont souvent depuis des générations, ils ont grandi, ils veulent y voir vivre leurs enfants, grandir les générations futures. Et donc mon ambition, c'est de les accompagner au mieux pour une meilleure vie.
Bravo.
Bravo, oui.
Ouais.
Et vous, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le fait d'être dans
le quartier? Ah non, moi, Bruno Gilles, il n'est pas venu me chercher. Non, non, il aurait pu, hein. Il aurait pu, mais bon, moi, j'étais dans le 15e arrondissement. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours engagé social, au niveau associatif, pardon. Et en gravité, on était en travail, on travaillait beaucoup avec les politiques. Et à l'époque, il y avait une vraie relation, une relation de confiance et des moyens qui étaient donnés. Aux travailleurs sociaux, aux bénévoles notamment, pour pouvoir développer des projets. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup ne se retrouvent plus dans la politique qu'on propose. Le problème qu'on a à Marseille, c'est que quand on n'est pas content de son politique, on le sanctionne en n'allant pas voter. Alors que normalement, pour sanctionner quelqu'un, lorsqu'on a fait monter quelqu'un, si on doit le sanctionner, on le fait redescendre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Longtemps, quand j'en parlais avec les jeunes, que je leur disais, ouais, mais il faut aller voter. J'ai dit, mais voter pour qui? C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément
d'alternative
ou de programme qui était proposé. Et aujourd'hui, c'est voter contre, contre quelque chose et pas pour quelque chose, ce qui était un petit peu dommage. Et effectivement, ouais, le fruit de cette réflexion-là, les responsabilités nous ont amené à nous dire que peut-être, éventuellement, il fallait sauter le pas et franchir le cap et se présenter, proposer quelque chose de différent. Parce que c'est bien beau d'aller dire aux jeunes, allez voter, mais c'est vrai qu'il fallait leur proposer quelque chose. J'ai oublié un petit détail qui est très important, c'est qu'on a vécu pendant 6 ans avec une mairie 13-14 qui était dirigée par le Front National à l'époque. Alors les électeurs du Front National, moi j'ai rien contre eux, au contraire, ils manifestent un mécontentement et un ras-le-bol que je partage. Par contre, ils nous ont prouvé, parce que je sais par rapport à certaines personnes qui travaillent à la mairie qui n'ont pas fait grand-chose, ou si ce n'est pire, en ne faisant rien, on accentue un petit peu les problématiques. Ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas aptes à diriger une institution et à monter des projets. De toute façon, on ne peut pas monter des projets en divisant les gens, ce n'est pas possible. C'est impossible. On ne pourra pas faire des choses comme ça. On ne pourra pas avancer parce qu'un jour ou l'autre, y a une partie qui la partie qui est délaissée va se révolter. Clairement.
Non. Probablement. Et du coup, comment vous deux vous êtes rencontrés? Un policier, une école de danse, une élue
Elle était en retard pour son cours de danse et elle a franchi un peu rouge. Voilà. Du coup, moi, j'étais là.
Il m'a arrêté, il m'a mis les menottes et voilà.
Non. On va resituer les choses, on met pas les menottes parce qu'on a franchi un feu rouge, c'est pas vrai.
D'accord.
Même si c'est très grave et qu'il faut respecter la signalisation tricolore. Non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est un binôme inédit. Je pense pas, ouais, inédit, c'est le terme.
J'ai été engagé dans la lutte contre le Front National par rapport aux municipales dernières et on n'était pas dans le même camp. Donc on s'est croisés sur le terrain et on a appris à se connaître comme ça. D'abord, dans un premier temps, ça a été le premier contact et puis la suite, elle va vous la raconter.
Ça te plaît, ça, hein? Ouais. Bon, alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au municipal, malheureusement, notre famille politique était divisée. Donc, vous avez d'un côté les équipes de Bruno Gilles, que je représentais sur le 13-14, et les équipes de Martine Vassal, qu'on salue également si elle nous écoute. Donc, malheureusement, étant divisée, chaque équipe a fait son job sur le terrain. Donc après, on a avancé. Malheureusement, à cause de ça, on a perdu la ville. Derrière, pour les départementales, on a la chance que la famille se soit réunie. Alors, comme j'aimais à le dire à l'époque, que pas ma maman se mette d'accord, les enfants suivront. Et ça a été le cas. Donc ça, c'est très bien. Ils ont su se mettre autour d'une table, faire fi de leurs différences et avancer ensemble, unis, pour les élections départementales. Donc ainsi, Bruno Gilles a souhaité que je sois sur les listes de Martine, ainsi que ma collègue que j'embrasse fort et à qui je souhaite bonne chance également, Marine Pustorino, qui est engagée sur un autre canton de Marseille. Du coup, on m'a dit, ben voilà, il faudrait trouver un binôme Josépha. Donc, de par mon caractère, hein, comme vous le savez, ma chère Gentiane, j'ai dit, hop, 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 je choisis mon binôme.
Oui.
Qu'on ne me l'impose pas. Vous vous doutez bien quand même que plusieurs propositions ont été faites, que ce soit au sein de...
On veut des noms.
Au sein des...
Donne-nous des noms, on
que
veut
ce
savoir.
Soit dans l'équipe de Bruno, de Martine, ou même issu de la société civile, du monde associatif. Enfin, vous savez, dès qu'il y a une élection,
donc,
tout le monde se jette dessus.
Énorme.
Il y a eu un casting, et parmi ce casting, on m'a proposé Ahmed Jaoui, que je connaissais pas. Mm-hmm. Bon. Donc là-dessus, on a un rendez-vous qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. On rentrera peut-être pas forcément dans le sujet, mais en tout cas, il démarre. De par nos opinions respectives, on n'était pas sûrs du tout de partir ensemble.
Pas du tout, même.
Voilà. Le rendez-vous qui aurait dû durer une demi-heure a finalement duré 2h30.
D'accord.
Et je pense qu'on peut parler de coup de cœur psychologique, intellectuel en tout cas, sur les idées, sur le programme, sur ce qu'on voulait partager, sur ce qu'on voulait mettre en avant sur notre territoire. Parce que je vous rappelle que le canton 4, qui est assez grand, part de Bon Secours, Saint-Gabriel-les-Rosiers, en bas côté 14e, et remonte toujours tout droit en prenant la Visitation, la Paternelle, Saint-Joseph, le Castellas, la Morlette, et jusqu'en haut, jusqu'au Parc Calice, la Solidarité, en englobant les Borelles, Saint-Antoine, la Savine, etc. Donc c'est un territoire quand même qui est étendu, mais qui surtout a des problématiques bien différentes. Que ce soit sur la partie du 14e ou la partie du 15e. Donc, les propositions que l'on avait à faire étaient quand même assez vastes, les problématiques assez variées à essayer de régler. Et on s'est rendu compte en échangeant qu'on partait complètement dans la même optique, complètement dans le même type de projet. Et on s'est même surpris à vouloir terminer la phrase de l'un et de l'autre quand on parlait d'un sujet. Donc, bien évidemment, on est ressorti du bureau en disant l'un comme l'autre, puisque... Ahmed a fait ce choix aussi, hein. Il n'a pas été contraint et forcé, le pauvre, de partir ensemble.
On aurait pu partir l'un contre l'autre. Hein.
Aussi.
Ça aurait pu. On aurait perdu tous les deux, je pense.
Je pense, alors que là, on va gagner ensemble.
Et on va gagner ensemble.
Alors, vous déclarez dans votre programme, donc on a votre brochure qui va s'afficher vraisemblablement, vouloir donc un département fort pour nos quartiers.
Oui.
Mais concrètement... Quelles actions peut mener le département, en plus de la municipalité, pour les habitants des quartiers des Bouches-du-Rhône? Parce qu'on ne sait pas toujours trop qui fait quoi.
Ah ouais, je vous parlais de ce que je sais, et par rapport aux prérogatives du conseil départemental. Aujourd'hui, je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs. Sachez que vos conseillers départementaux, vous devez les considérer comme vos avocats. Ce sont des gens qui vont vous défendre dans le conseil départemental. Ils vont venir porter vos idées, porter vos problématiques et essayer d'y apporter des solutions. Alors, peut-être que des fois, ce n'est pas de la compétence du département, mais ils doivent être la plaque tournante et vous diriger vers les bonnes institutions et vous accompagner dans vos combats. Si vous votez pour des avocats qui ne vous défendent pas, parce que l'avocat n'a pas forcément une obligation de résultat. On le dit, hein, l'avocat...
Une obligation de moyens.
Il y a une obligation de moyens. L'avocat, il peut gagner le procès, il peut le perdre, mais s'il vous défend, il vous a défendu bec et ongles, peut-être vous serez même moins déçu que ce qu'il n'avait rien fait.
Certes.
Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous propose, c'est d'être vos avocats. On peut vous défendre. Aujourd'hui, le conseil départemental intervient notamment dans les collèges. Il y a des problématiques dans les collèges, il faut le savoir, même si Martine Vassal a fait énormément. Mais après, on ne peut pas être partout. Votre conseiller départemental, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a proposé pour l'avenir? Parce que c'est bien de penser à l'avenir aussi. Penser à ce que... Parce que ce qui était valable peut-être il y a 30 ans ou il y a 20 ans n'est plus valable aujourd'hui. Le monde évolue, les jeunes évoluent. Et moi, j'ai remarqué certaines problématiques qui existent depuis 30 ans, puisque moi, je les ai rencontrées à l'époque, je les rencontre encore aujourd'hui, au quotidien, quand j'en parle aux personnes. On pourra développer le point si vous voulez tout à l'heure. Le conseil départemental intervient également sur le milieu de la culture. Alors, culturellement parlant, à Marseille, on a énormément de rappeurs connus. Alors, je me suis posé la question, comment cela se fait? Mais parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une grosse structure ou de gros moyens pour faire du rap. Je m'explique, aujourd'hui, des rappeurs qui font des millions de vues et qui peut-être sont millionnaires enregistrent dans leur chambre. On n'a pas forcément besoin d'un studio, on a juste besoin des moyens pour enregistrer. Il suffit que vous connaissiez un petit peu la musique et les logiciels d'enregistrement et vous pouvez enregistrer tout seul. Alors on a énormément de rappeurs. Par contre, on n'a pas de comédiens. On n'a pas de poète.
On a quelques comédiens.
Je pense qu'on regorge de talents dans les quartiers nord et qui ne sont pas exploités.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Clairement. Je veux dire, aujourd'hui, moi, quand je fais du théâtre. La première fois, la première fois que je me suis présenté sur scène, où j'avais présenté un spectacle, j'avais invité des jeunes, mais eux, il y avait une barrière avec le théâtre. Pour eux, le théâtre, c'est quelque chose d'élitiste. ça réservait peut-être à une certaine catégorie de personnes. Et mais comment ça, on va aller au théâtre? Après, ils se sont surpris à aimer ça. Des familles, des parents, des mamans qui viennent au théâtre et qui aiment ça. Et qui, derrière, tu sais, Ahmed, je suis allé voir tel spectacle à tel théâtre. Pas forcément au départ, on vient voir Ahmed et finalement, après, on va voir les autres parce qu'on se dit, c'est déjà une alternative au cinéma. C'est une expérience qui est différente parce qu'il peut y avoir une interaction entre les comédiens et les spectateurs. Et on raconte une histoire et les gens aiment bien qu'on leur raconte des histoires.
Justement, alors, c'est tout trouvé, la suite, transition. Puisque, oui, la transition est toute trouvée, puisque sur la première page donc, du visuel qu'on a vu et qu'on peut revoir, vous mettez, en fait, ce que pensent les... Vous dites tout haut ce que pensent tout bas les gens en général. Hein. On en a marre, on veut que ça change, on ne voit jamais personne, on nous vend du rêve, que des mensonges, les politiciens, on n'y croit plus, on ne vote plus. Alors, c'est bien, vous mettez ce que les gens pensent et vous avez des propositions de rendre des comptes par des réunions et autres.
Complètement. En fait, si vous voulez, nous, on s'est toujours inscrit dans le cadre quand on a voulu préparer ce programme, hein, puisque c'est Ahmed et moi qui l'avons préparé. On ne nous l'a pas imposé ou autre. On l'a vraiment fait en fonction des besoins de notre territoire. Mm-hmm. On a d'abord commencé par faire un premier tour de piste, comme j'aime à l'appeler, un premier tour de porte-à-porte et de rencontre avec les habitants ensemble dans le démarrage de cette campagne électorale pour véritablement prendre la température, mais surtout donner la parole aux gens. Ça, je pense que c'est primordial. Les élus ne le font pas et devraient le faire plus souvent, être dans la proximité. Donc, on avait besoin de s'inscrire dans le cadre d'un projet participatif en disant aux gens de quoi vous avez besoin. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fonction des différents quartiers du territoire, les besoins sont complètement différents. Et là, on a pu entendre très souvent, on en a marre, on n'a plus confiance en la politique, on ne vote plus, à chaque élection c'est la même chose, on voit toujours les mêmes têtes qui se présentent, qui se représentent, on nous vend du rêve et après pendant 6 ans on ne les voit plus. Et c'est un petit peu ce qui a motivé aussi notre choix d'engagement, parce qu'on en a marre de tout ça. Il est grand temps de faire de la politique au sens noble du terme, de remettre l'humain au centre du débat. Et pour ça, comment on fait? C'est très simple. 1. Avoir des élus de proximité. Un élu de proximité, ça veut dire qu'il va être là au quotidien, à vos côtés, pour vous accompagner dans vos différentes démarches, dans vos différents besoins, pour organiser régulièrement des tables de rencontres chez l'habitant ou dans les différentes structures avec le monde associatif, le monde économique, les CIQ, les représentants des habitants. Alors, je ne dis pas qu'on va tout révolutionner. Je dis juste qu'on est là pour vous accompagner et défendre au mieux les intérêts de notre secteur. Donc, quand ce sera du domaine de compétence du département, oui, bien sûr, on pourra se relever les manches et tout de suite agir. Parce qu'encore une fois, il est important, peu importe qui on a en face, de savoir taper du poing sur la table pour dire et défendre nos intérêts et dire voilà ce dont notre secteur a besoin. Mais aussi, être dans la proximité pour les accompagner, surtout quand ça dépend de d'autres institutions, quand leurs besoins dépendent de la mairie de secteur, de la mairie centrale ou encore de la région ou même de différentes fondations du monde économique pour intervenir comme une passerelle, comme un facilitateur et les accompagner au mieux. Donc voilà, premier point déjà, remettre de la proximité, parce que je ne me prends pas pour Darty, mais il est grand temps de remettre le contrat de confiance, voilà, avec les habitants, parce que la politique n'est plus et n'est pas en tout cas ce qu'elle devrait être. Et le deuxième point qui nous tenait à cœur, effectivement, c'était de rendre des comptes aux habitants, parce que très souvent, comme on le disait en préambule, pendant 6 ans, on ne les voit plus. On ne sait pas ce qui se passe, c'est complètement opaque. Donc on doit remettre de la transparence, de l'honnêteté. Et comment on fait ça? Tout simplement, en se mettant face aux habitants régulièrement, donc ça peut être une fois par an, et en disant, voilà les amis, vous nous avez élus pour tel programme, voilà ce qu'on a fait, pourquoi, comment, avec quels moyens, voilà ce que l'on n'a pas pu faire, parce qu'il peut arriver parfois qu'une ou deux propositions ne puissent pas être réalisées, mais encore une fois, en toute transparence et en toute honnêteté, de dire pourquoi, et de continuer à avancer ensemble dans l'évolution de ce projet participatif qui mettra 6 ans, du coup, à être évalué. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mon rêve au milieu de ce mandat, c'est qu'on commence à nous dire on est bien chez nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon sens, à notre sens, je me permets de parler aussi en ton nom, l'avenir de Marseille doit passer par le secteur nord de la ville.
Complètement.
L'avenir du territoire, l'avenir du département doit passer par le secteur nord de la ville de Marseille, parce que c'est là qu'il y a tout à faire. C'est là qu'on en a besoin. On a besoin d'agir. Donc on va se relever les manches, on va y aller fort. Que ça nous crée ou pas des inimitiés, des ennemis, des amis, peu importe. Le job doit être fait. Et on le fera, je pense, tel de véritables guerriers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la presse nous appelle déjà le binôme de l'Union, puisqu'on représente tous les deux l'Union de la droite, du centre, des indépendants, des sans-étiquette, des trèfles de droite, enfin des trèfles de droite, les trèfles, les écolos de droite, etc. Donc véritablement le binôme de l'Union. Et sur le territoire, on commence à nous appeler le binôme de l'espoir. Parce que les gens, à travers notre candidature, commence à voir le bout du tunnel, commence à espérer, commence à se dire « c'est possible de changer les choses ».
Exactement, bravo. Ah, ça mérite des applaudissements, bravo. Excellent.
Alors, en termes d'applaudissements, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Chacun ? Ça peut être à titre personnel, à titre politique, à titre X ou Y.
Moi, personnellement, c'est Femmes de Mars. Hein. C'est mon bébé. J'espère, à travers cette association, le transformer petit à petit en fondation, qu'on puisse avoir un lieu pour accueillir ces personnes, ces femmes et ces familles qui sont dans le besoin, parce que il faut les accompagner. Il y a trop de choses qui se passent dont on n'est pas au courant. Parfois, une femme qui veut quitter son foyer, ben, elle n'a pas de quoi ni se retourner, ni se loger ou autre. Ou quand elle a des enfants, elle ne peut pas les laisser. Enfin, c'est très compliqué. Je salue d'ailleurs les forces de l'ordre qui font un travail remarquable sur le terrain pour les accompagner. Et surtout quand une femme en détresse se rend au poste de police. Donc, c'est très compliqué. On salue donc les forces de l'ordre, les associations. Mais on manque de structures, de lieux d'hébergement, même s'il y en a, c'est jamais assez. Donc voilà, mon rêve serait que Femmes de Mars, même s'il y a aussi hein, un volet économie, communication, avec les soirées, les femmes font leur com, etc., les soirées de réseautage, donc ça, c'est un petit peu, on va dire, ce qui fait sourire, là où on se fait plaisir, mais il y a aussi véritablement un volet engagement, accompagnement de celles qui en ont besoin. Donc voilà, mon bébé, c'est Femmes de Mars, et j'aimerais vraiment que ça se soit transformé en fondation pour être accessible à toutes.
Il y a du boulot, en effet, les féminicides ont progressé cette année suite au confinement, peut-être. Donc, faudrait vraiment se bouger pour changer la donne.
Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent les femmes. Là, on dit souvent les femmes, et attention, il faut pas tout mélanger. Les hommes soutiennent les femmes, les hommes soutiennent Femmes de Mars. D'ailleurs, on avait fait une campagne cette année avec de nombreux artistes le 8 mars où tous les hommes avaient envoyé un cœur avec leurs mains pour soutenir Femmes de Mars et toutes les femmes qui sont dans le besoin. Donc voilà, on embrasse fort tous ces hommes qui se mobilisent pour la cause des femmes.
Clairement.
Bien sûr. Et
une action dont je serais le plus fier.
Éventuellement, outre le prix qu'a eu Info à Gogo.
Non, c'est le prix. Limite, ça, c'était normal pour nous. Pas le prix. Mmh. Ce qu'on a fait, c'était normal. On s'est senti. Vous savez, ça vient à vous. Vous savez pas pourquoi vous le faites, mais vous le faites. Voilà, c'est comme ça. On est engagé, on était dans le quartier. Et on l'est toujours. Hein, et c'est vrai que je n'ai pas forcément de gloire à tirer de ça. Clairement. Par contre, moi, au niveau. Je sais que la politique, elle peut changer les choses, elle peut changer des destins. Quand vous avez des personnes qui vivent dans leur voiture et que vous leur donnez un appartement, je vois dans le regard de la personne tout ce que vous pouvez lui apporter. Pourtant, l'appartement, ce n'est pas forcément dans les quartiers super cotés de Marseille. Et elle l'accepte et elle est contente.
Pour toi, c'est une sécurité.
Moi, ça m'a troublé. Quand vous savez qu'il y a des gens, il y a aujourd'hui des familles, et ce n'est pas celles qui viennent demander. Hein. Il y a des familles qui ne mangent pas leur faim aujourd'hui. Alors, on arrive avec des réseaux à savoir qui elles sont. On leur dépose des colis alimentaires devant la porte sans qu'elles sachent que c'est nous. On tape et puis on s'en va et on y va. Parce qu'elles ont honte de demander. Elles sont dans la pudeur. Alors, je ne dis pas que celles qui demandent, ce n'est pas bien ce qu'elles font. Attention, non. Je dis juste qu'il y a une catégorie qui ne demande de rien et qui souffre.
La misère silencieuse.
Et la politique, elle peut changer leur destin à eux. Et c'est peut-être le credo de mon engagement aujourd'hui.
D'accord.
Changer le destin de ces oubliés.
Bon, là aussi, ça mérite des applaudissements.
Oui, double applaudissement.
Franchement, j'ai rien inventé, je vais vous dire la vérité, parce que j'ai un mentor en politique, parce qu'il a parlé de Bruno Gilles, moi c'est Nora Preciosi, avec qui que j'ai soutenu depuis le départ, qui a eu un courage monstrueux, cette dame, parce qu'elle est venue pendant les années Sarko, elle est venue, elle a dit, voilà, un jour je représente Sarko, alors qu'il venait de parler des Karchers, d'un site, et tout ça. J'ai dit, waouh, un extraterrestre, elle est folle, cette femme. Et en fait, cette dame, elle a eu le courage, parce que dans les quartiers, on dit on est de gauche. Nous, on a toujours vécu avec cette idée que la droite, c'est les méchants et la gauche, c'est les gentils. C'est ça, c'est binaire. Mais la gauche, on a vu le résultat de leur politique depuis 30 ans. On peut avoir des idées, être dans l'idéologie de gauche et mener et être dans un parti de droite.
C'est un peu notre cas.
C'est un peu notre cas, ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Et Nora Pressosi, elle a eu ce courage-là de venir déblayer le terrain, de creuser, d'aller face à ces gens-là et à des personnes qui étaient très influentes dans les quartiers et qui nous apportaient un discours différent. Après, nous, on a fait des études, on est instruits, tout va bien, on a su peser le pour et le contre et on s'est rendu compte. Elle nous a ouvert les yeux, cette dame. Donc, c'est pour ça que je la remercie et je lui ai reconnaissant.
Très bien.
Bon, on peut l'applaudir, elle aussi, même si elle n'est pas.
Elle était dans l'émission Focus la semaine dernière. Voilà, on l'a
et on lui souhaite bien sûr, avec son binôme, de venir aussi toute la réussite possible.
Mais on va gagner le 4-5. Quand on 4, quand on 5. Alors, ça rejoint Bruno Gilles. C'est ça, la mienne.
Impeccable.
Il y a un projet concret que vous mettrez en œuvre dès que vous êtes élu.
Ah, il y en a plein.
Il y en a plein, pas qu'un, j'imagine, mais un ou deux dont vous voulez parler.
Non, non, on va parler de tous.
Vous êtes prêts? Ah, allez, on recommence.
Vas-y, à moi, je sais.
Alors, moi, il y en a deux personnellement qui me tiennent à cœur. Mm-hmm. Je pense que ça se rejoint également. Donc, je vais te laisser le premier auquel je pense.
Ok.
À savoir l'orientation et l'avenir.
Très bien.
Et pour ma part, je vais développer le côté culture, art, sport, etc. Car il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Comme on le disait tout à l'heure, c'était de développer, de donner la chance aux jeunes, les mêmes chances qu'il y avait dans les autres secteurs de Marseille. Comme on le disait, il y a des pépites sur notre territoire. Et malheureusement, elles n'ont pas de quoi étudier l'art, la musique, le chant, la danse, la comédie, etc. Parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité. Alors, il y a des écoles de danse, de théâtre, etc. Mais il n'y a pas toutes les structures et il n'y a pas toutes les choses mises en place comme des studios d'enregistrement gratuits ou autres où ils pourraient comme ça, ou très peu, venir s'essayer à la musique et à différents, enfin, dans le monde de l'art, le découvrir. Faire ces passerelles aussi entre le milieu classique et le milieu contemporain urbain, le hip-hop et autres, parce que faut pas oublier que dans l'art, de manière générale, tout part du classique, que ce soit en musique, en chant, en danse, etc. Donc leur donner vraiment cette possibilité et du coup de créer une grande école des arts et de la culture. Alors pour ceux qui sont de ma génération, je pense que vous connaîtrez la série Undo Stress. Mm-hmm. Et ben voilà, le Undo Stress des quartiers nord. Déjà,
pourquoi
pour commencer.
Pas, pourquoi non.
Et pour ceux qui connaissent pas, ce serait un peu l'école Juilliard des États-Unis à la Marseillaise.
Ok.
Fame, pour les plus anciens.
Voilà, ça c'est la chaîne de génération.
Et le deuxième projet?
On en a plein des projets.
Non, on en a plein.
Dont vous parlez aujourd'hui.
On a le projet de créer une ferme pédagogique dans le 15e arrondissement aux Égalades. On a le projet de soutenir la création des places en crèche, parce que ce n'est pas d'une compétence du département, mais de la ville de Marseille. C'est la ville de Marseille qui doit créer des places en crèche. Aujourd'hui, posez-vous la question, mes chers auditeurs et auditrices, de savoir combien dans votre quartier, combien de places ont été créés, places en crèche, ont été créées dans ces quartiers politiques de la ville. Moi, je peux vous donner le chiffre, 0. Le département continue à soutenir, il soutient, et il continuera de soutenir. Nous, on va impulser justement ces créations de places en crèche, parce que les gens travaillent, ils ont besoin, on a besoin autant de places en crèche dans les quartiers nord que dans les quartiers sud. Et ce n'est pas normal qu'il y ait cette disparité, et nous, on va rétablir la justice sociale. Donc, je vous ai parlé, ça, c'est les projets les combats qu'on va mener pendant notre mandat si on est élu. Mais un projet qui nous tient particulièrement à cœur, Jean-Siane, c'est sur l'orientation scolaire des troisièmes. On ne veut plus que l'orientation des collégiens de troisièmes en fin de parcours scolaire soit un choix par défaut. On n'a plus le droit de ça. C'est pas possible. Je l'ai vécu il y a 30 ans. Les gens le vivent encore aujourd'hui. J'ai des amis de la famille qui m'en parlent encore aujourd'hui. L'orientation des jeunes collégiens se joue 10 minutes en fin de troisième avec un conseiller d'orientation et une semaine, on doit remplir notre feuille de vœux, remplir les trois vœux et savoir ce qu'on veut faire. Mais comment on peut demander à quelqu'un de 13 ou 14 ans de savoir ce qu'il veut faire dans la vie? C'est pas possible. On peut pas savoir. Alors nous, ce qu'on propose, nous, c'est de créer une structure institutionnelle qui dépendrait du conseil départemental. Et si ça ne sera pas fait, on s'engage à le faire de manière associative. Parce que nous avons les bénévoles, on a la matière aujourd'hui pour pouvoir créer cette structure-là.
Et on saura trouver les sponsors pour le financer.
Et on pourra le faire financer, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on voudrait créer une structure qui permettrait à des jeunes, des personnes qui ont réussi aujourd'hui socialement, qui ont un travail, développé quelque chose, des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, des fleuristes, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des gens qui sont dans la production musicale, dans la production audiovisuelle, des fleuristes, des métiers manuels, des plombiers, des gens qui ont qui créent des richesses aujourd'hui, qui sont issus de nos secteurs, de nos quartiers, les présenter comme des exemples. L'idée, ça serait que chaque semaine, un collégien de 4e, de 3e, dans son emploi du temps, il est deux heures, pendant ces deux heures-là, ce temps-là, une personne vient lui présenter son métier, son parcours scolaire, son parcours de vie et son salaire pour le valoriser et dire voilà comment je suis arrivé là, par où je suis passé et peut-être donner un peu plus d'informations concernant l'orientation et les métiers, on va dire de manière physique et un vrai contact humain plutôt qu'une documentation qui est fastidieuse, extrêmement lire et complexe à comprendre et ça pourra aider les gens à allez, je suis un petit peu optimiste, peut-être je suis idéaliste, mais peut-être qu'on va régler le problème, mais on va déjà essayer d'apporter une réponse au décrochage scolaire. Parce que les jeunes aujourd'hui, quand on choisit son orientation scolaire par défaut, qu'est-ce qu'il arrive ? On n'est plus intéressé par les études qu'on fait, on continue parce qu'il faut continuer, et puis à 16 ans, on se rend compte qu'on n'a peut-être plus l'obligation d'aller à l'école, et puis on fait l'école buissonnière, et puis on fait de mauvaises fréquentations, de mauvaises rencontres, et il y a des gens qui basculent aujourd'hui. Et c'est compliqué de revenir après dans le système scolaire. Alors, quand ils reviennent, il va falloir faire après des métiers par défaut. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes fassent les métiers dont ils ont envie.
Voilà. Donc, il faut impulser cette dynamique d'apprendre, cette appétence, et surtout leur faire redécouvrir l'ambition d'apprendre et de réussir leurs études pour avoir un métier. Ça peut être un métier passant, un métier alimentaire, mais quoi qu'il arrive, on doit les accompagner.
On doit leur présenter ces personnes-là qui aujourd'hui ont peut-être 40 ou 50 ans, qui sont passées par les mêmes établissements scolaires qu'eux, qui ont eu un parcours exceptionnel, et leur dire voilà, on peut passer par ces établissements-là et on peut réussir.
C'est possible.
Voilà. Il faut valoriser aussi ces parcours de vie qui sont exceptionnels. Ils ne demandent que ça. Ces gens-là ne demandent qu'à intervenir. Alors, moi, je ne déclare pas la guerre à l'éducation nationale. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis juste qu'il y a des lacunes. Il y a 30 ans. Et aujourd'hui, elles sont encore existantes dans nos quartiers. Et on voudrait créer cette maison départementale de l'avenir et de l'orientation, ou de l'orientation et de l'avenir. On verra comment on l'appellera avec Madame la Présidente.
Et on en profite d'ailleurs pour saluer le travail énorme que font les assistants et les assistantes sociales dans les collèges.
Excellent.
Car ils se battent aussi pour cette orientation des jeunes et ils n'ont pas forcément tous les moyens pour le faire. Et les associations qui accompagnent aussi ces jeunes dans le milieu scolaire, dans cette orientation, pour essayer de leur faire découvrir ça, mais qui du coup ont peu de moyens et n'ont pas forcément de structure où elles pourraient se poser. Donc là, ce serait vraiment une pierre angulaire où tout le monde pourrait venir discuter, échanger,
créer des CV, leur apprendre comment on fait un CV, comment se présenter, comment s'habiller quand on va dans un entretien, même si en troisième on va dans un entretien, on va aussi.
Ben si, il y a peut-être un stage de 3 jours.
Et j'en arrive voilà. Justement au stage de troisième. Il faut plus que le stage de troisième soit un stage par défaut, apporté par un parent ou l'ami d'un parent ou autre, mais qui soit vraiment un stage valorisant. Mmh. L'idée, c'est ça. J'ai l'exemple type d'un avocat, un ami avocat qui est dans le 15e arrondissement, qui est extrêmement connu à Marseille et en France parce qu'il s'occupe des personnes accidentées. Qui un jour, il y a une copine de travail qui me dit « Ma fille, elle voudrait faire un stage chez un avocat. » Je dis « Ok. » Donc elle est partie. Et je téléphone à cet ami, je dis « Oui, ok, pas de souci. » Je lui signe sa convention et elle fait « Alors le stage chez un avocat, vous avez deux possibilités. Soit vous allez classer les dossiers pendant une semaine et vous allez vous embêter au plus haut point. Et soit vous faites ce qu'a fait cette équipe d'avocats où ils l'ont prise avec eux et ils l'ont monté à...
Ils l'ont amené partout,
dans donc dans les rendez-vous, dans les audiences, à assister un petit peu, à une plaidoirie, comment ça se passe et compagnie. Et ça, ce sont des stages valorisants.
Ah oui,
et
c'est fantastique pour un jeune.
C'est extraordinaire.
Oui, mais voilà. Ils devraient tous avoir la chance d'avoir cette expérience-là.
Bien sûr.
J'ai fait mon stage 3e au marché Opus. Je vendais des olives. Donc, je veux dire, c'était pas valorisant du tout. Je l'ai fait parce que je travaillais le week-end.
Mais heureusement qu'il y a des vendeurs d'olives quand même.
Mais bien sûr, mais à un moment donné, je le faisais déjà toute la semaine. Et pour valider le stage et pas me retrouver seul à la maison et être le vilain petit canard, ben voilà, j'ai fait valider mon stage par une entreprise qui vendait des olives et des cacahuètes.
Bien sûr.
Je veux dire, je l'ai fait déjà toute la semaine.
Mais par exemple, quelqu'un qui s'intéresserait aux olives, il pourrait faire un stage passionnant aux mines, aux Arnavaux.
Par exemple.
Aussi, auprès des exportateurs.
On a des producteurs, voilà. On a des producteurs d'olives dans le 14e, dans notre canton.
Tout à fait.
Chemin des Bessons. Il y a de l'huile d'olive bio qui est vendue, qui est produite sur place.
Il y a même le miel des quartiers nord.
Il y a des apiculteurs qui sont dans nos régions. Ça aussi, c'est des métiers qu'il faut présenter.
Le miel des quartiers nord ? Où est-ce qu'on le produit ?
En fait, ils le produisent dans les quartiers nord. Les rues, elles sont positionnées un petit peu partout.
Hein, sur les toitures ?
Sur des toitures, dans des terrains.
D'accord.
Dans des terrains particuliers. Et donc, du coup, on a eu la chance de goûter au miel des quartiers nord. On l'a acheté à l'époque au marché des Égalades. C'est un marché qui
d'accord.
a lieu tous les premiers
dimanches. Tous les premiers dimanches,
ouais. Du mois.
Oui,
voilà.
Oui. Okay, excellent. Lors de la balade auprès de...
Non, à la Cité des Arts.
À la Cité des Arts,
à la Cité des Arts, on a découvert un supermarché, notamment des producteurs comme ça. Ben, ce n'est pas forcément leur métier, mais ça fait partie de leur passion, et donc ils transmettent ça. L'activité de l'apiculture connaît un grand boom aujourd'hui. Si vous voulez être formé, il va falloir des mois et des mois d'attente pour pouvoir suivre une formation.
D'accord. Ouais,
et la préservation des abeilles est importante. Elle ne fait pas partie de notre programme.
Non, par contre, dans notre programme, on a le développement également de jardins partagés, même dans les cités, parce qu'il y a une forte demande.
Énorme.
Voilà, énorme de développement de jardins partagés. Et ça
notamment au rosier.
Tout à fait. Ça nous tient à cœur. Donc, on est déjà en train de travailler là-dessus.
Notre binôme qui est Hervé Jourdan,
oui.
qui lui a créé les jardins de Julien dans le 14e.
D'accord.
Il a géré les jardins partagés du Castellas, les jardins familiaux. Il sait de quoi il parle, il est grossiste en fleurs, il a une maison fabuleuse, magnifique, c'est un potager à ciel ouvert, c'est extraordinaire, et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et tout ce qu'il cultive, il considère qu'il faut le donner, il ne le vend pas, lui, par contre.
D'accord.
Alors, ceux qui le vendent, c'est bien pour eux aussi, attention, on ne critique pas.
On n'a pas toujours voilà. la possibilité
mais
de donner.
Mais c'est quelqu'un qui donne, voilà, ce que la terre lui donne, il le rend.
Et on l'embrasse fort.
Et on l'abasse très fort.
Très bien. Je pense qu'on a fait un tour assez général mais très très riche de vos propositions. Dans cette émission Focus, on présente aussi des événements culturels à ne pas manquer. Alors prochainement au cinéma Les Variétés, il va y avoir une avant-première très intéressante donc du film Sous le ciel d'Alice. C'est un film c'est le premier long métrage de la réalisatrice Chloé Maslow qui sera là pour le présenter. Donc c'est une épopée familiale et romantique, un film inventif et original. En fait, c'est une Suisse qui débarque au Liban et qui tombe amoureuse de celui qui voudrait être le premier astronaute libanais. Donc voilà, sauf que la guerre arrive, donc c'est un film à découvrir.
Au cinéma ?
Oui, Les Variétés sur la Canebière, l'avant-première en présence de la réalisatrice mercredi 16 juin à 20h. Et au cinéma, dès le lendemain.
Alors, on en profite que vous ayez l'agenda culturel d'ouvert. Comme ça, vous pourrez d'ores et déjà noter que
oui.
été 2022 auront lieu
oui.
un festival de musique classique et urbain sur le secteur nord de la ville et le festival Les BDR. Et je laisse mon binôme expliquer ce que seront ça, les BDR.
Les BDR, alors déjà, c'est déposé. Alors, à la concurrence, je vous le dis, laissez tomber. D'accord ? Donc, oubliez. Ça va être un festival d'humour départemental qui mettra à l'honneur les humoristes du département.
Génial.
Voilà, et donc ça sera pas là, les bouches du rire.
Génial.
Voilà.
Génial.
Et comme on vous l'a dit, c'est déposé.
Ah oui, n'essayez pas, ça sert à rien. Donc c'est déposé.
Mieux.
On le mettra, donc qu'on soit élu ou pas, vous inquiétez pas, on le fera, ça c'est pas un souci, mais on préfère le faire en étant élu.
Ah, mais complètement.
C'est mieux, merci beaucoup.
Avec plus de moyens.
Avec plus de moyens, et puis.
Un autre, merci, on note, on retient, on sera là.
Notez bien.
À noter également au Théâtre des Calanques une répétition d'une pièce, Les Mariés de l'Apocalypse, samedi 19 juin à 18h. Alors c'est gratuit, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion, quand on n'est pas du milieu, d'assister à une répétition publique et gratuite d'une pièce qui est en train de se monter, de finaliser de se monter. Donc à noter, rapprochez-vous du Théâtre des Calanques sur leurs réseaux sociaux pour bénéficier de réserver votre invitation. Voilà, alors chers invités, j'espère que tout s'est bien passé pour vous.
Ouais, déjà, c'est déjà terminé.
Cette émission touche à sa fin, mais vous pouvez quand même encore ajouter un dernier mot, si vous le souhaitez.
Alors, chers auditrices, chers auditeurs, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous souhaitez de l'espoir, vous souhaitez que les choses changent, vous souhaitez améliorer la vie dans vos quartiers, vous souhaitez que l'on prenne soin des générations futures pour vos enfants, pour nos familles, pour nos aînés. Donc, vous n'avez qu'un seul choix à faire, voter Colin Jaoui les 20 et 27 juin. Donc, dans votre bureau de vote habituel, c'est très important. Et ne vous dites pas, j'y crois plus, je veux pas voter. Parce que ne pas voter, c'est se laisser faire. Ne pas voter, c'est encourager celles et ceux qui sont toujours élus et réélus et qui font rien. Donc là, il est temps de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et de changer la donne. De nous accompagner pour changer la donne et pour qu'ensemble, on puisse changer les quartiers nord de Marseille, garder bien évidemment ce qui en fait sa richesse, parce qu'on a plein de pépites, c'est un terrain incroyable et on aime y vivre, y travailler, y évoluer. Mais pour qu'ensemble, on soit encore mieux chez nous, qu'on veuille rester chez nous et que ben, ce soit l'endroit select ou dans quelques années où tout le monde veuille déménager, qu'on leur dise « Eh ben non, c'est chez nous !»
Que les gens aient envie de venir chez nous.
C'est ça.
C'est ça ? Ouais. Moi, si je devais rajouter un mot, je vais essayer de ne pas être trop long. Je m'adresse directement aux auditeurs et aux auditrices. La politique, sans vous, elle n'est rien. Je m'explique. On aura beau monter les projets que l'on voudra, mettre les moyens que l'on voudra, si vous ne nous accompagnez pas, ça ne sert à rien. Donc, occupez-vous de vos familles, de vos voisins, de vos bâtiments, de votre quartier. Et donnez-nous la possibilité de créer le cadre dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Et votez Colin Jaouille les 20 et 27 juin. On compte sur vous.
C'est possible que s'ils votent en masse le 20, le 27, ils n'aient plus besoin, ils n'aient pas besoin de se déplacer.
Ah oui, alors là, c'est leur
bélier. Hein. Ouais.
On compte sur vous pour nous élire au premier
Par
tour.
Contre,
alors
là,
on
c'est feu d'artifice, champomis pour tout le monde. Je ne vous explique pas la fête qu'il va y avoir pendant une semaine.
Champomis pour toi, mais champagne pour moi, je t'explique. Ouais, hein, on va sortir les bulles aussi. Hein.
Champomis. Ça va être un truc de malade mental.
Donc, votez en masse Colin Jaoui le 20 juin. Et si vous êtes au rendez-vous, il n'y aura pas de second tour.
Ah, bien sûr. Si on gagne le premier tour, on se présente pour les présidentielles après. On enchaîne direct. Alors, Macron, fais attention.
On arrive.
Il est en danger.
Alors, merci beaucoup, Josépha Colin.
Merci, Jean-Siane, et merci à toute l'équipe.
Merci à toute l'équipe. Super sympathique. Bravo.
Alors, l'émission Focus touche à sa fin cette fois-ci. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté des élections des députés de la diaspora algérienne, donc avec un candidat invité. Donc, c'est imminent également, ces élections. C'est très, très bientôt. Donc, voilà, je pense que ça risque d'être une émission agitée et intéressante également. On se quitte en musique avec un choix d'un de nos invités, un choix dynamique, festif, spécial. C'est Rihanna SM.
Oui, Rihanna.
Pourquoi SM ? Sympathique et magnifique.
Par exemple, simple et magique.
Oui.
Ça marche aussi ?
Oui.
Voilà, non, c'est une chanson qui me fait penser à une pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué, qui s'appelait Toc Toc de Laurent Maffy.
D'accord.
Et dans laquelle je jouais le rôle d'une femme.
Ah.
Une secrétaire, exactement.
Ah, je ne sais pas si ça va vous être utile.
Je vais la regarder ce soir, c'est obligé.
Non, mais bon, non. Alors attends, on a créé ce personnage, c'est-à-dire que le rôle existe, le rôle de la secrétaire existe, mais il est très minimisé dans la version originale. Et nous, on l'a fait exister, un peu plus exister.
D'accord.
Voilà, et donc,
oui, on va chercher. Hein.
Cherchez, vous ne trouverez pas grand-chose. Je ne suis pas sûr que vous trouverez. Par contre, il y a des personnes qui ont des vidéos. Des amis.
Quel rapport avec cette musique de Rihanna ?
Donc, du coup, ça me fait penser un petit peu au théâtre. Parce que le théâtre aujourd'hui, je crois qu'il y a un stage de théâtre aujourd'hui qui commence au Top Petit Merlan et je leur rends hommage, voilà, simplement.
D'accord, eh ben, on écoute. Merci.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Na, 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 come on.